Bienvenue à l'écoute de France Inter au programme dans les trois prochaines heures, le 6-7, et je serai avec vous pour vous informer. Et puis le 7-9 de Nicolas Demorand, ses invités. 7h50, le politologue Bertrand Badi. 8h20, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière. Et à 9h20, François Asselin, le président de la CGPME. Mais là, il est tout juste 6h.
France Inter, le 6-7. Pierre Veil.
Et le 6-7, ça commence avec le journal de Germain Treille. Bonjour Germain.
Bonjour à tous. Donald Trump livre sa vision stratégique pour l'Afghanistan. Les États-Unis sont en guerre dans ce pays depuis 16 ans. Le président américain, qui penchait pour un retrait militaire, l'exclut désormais. On va l'écouter dans un instant. Le terroriste des Ramblas abattu hier en fin d'après-midi près de Barcelone. La traque aura duré 4 jours. La cellule de Daesh, une douzaine de djihadistes, a été intégralement neutralisée. À Marseille, un conducteur fou fonce sur des abribus. Une femme est morte. Ce n'est pas un attentat, estime la justice. La piste psychiatrique est privilégiée. Puis à la fin de ce journal, on évoquera la rentrée littéraire. Ça va se bousculer dans les rayons des librairies. Le changement dans la continuité, ou la continuité dans le changement, comme vous voulez. Bref, Donald Trump, le héros de l'anti-establishment washingtonien, fait comme l'establishment washingtonien, en tout cas sur le dossier afghan. L'Afghanistan, la guerre dure depuis 16 ans, depuis la décision de Bush d'intervenir après les attentats du 11 septembre. Obama a poursuivi peu ou prou la politique de son prédécesseur. L'actuel locataire de la Maison-Blanche fait de même. Donald Trump enverra donc de nouveaux soldats. C'est ce qu'il a dit lors d'une allocution sur la base de l'US Army à Fort Myer.
Un retrait hâtif créerait un vide dont les terroristes, parmi lesquels le groupe État islamique et Al-Qaïda, profiteraient. On ne dira rien sur le nombre de nos troupes ou nos plans pour nos futures activités militaires. L'Amérique va continuer à soutenir le gouvernement afghan et à soutenir les troupes afghanes qui se battent contre les talibans sur le terrain. L'Amérique travaillera avec le gouvernement afghan tant que l'on verra de la détermination et des progrès. Toutefois, notre soutien n'est pas un chèque en blanc.
Selon des responsables militaires américains, Donald Trump aurait donné son autorisation pour déployer près de 4000 soldats supplémentaires en Afghanistan. Ils sont 8000 actuellement. Washington demandera également à ses alliés de renforcer leurs effectifs sur place. Pour clore ce chapitre, sachez que Donald Trump n'est pas hostile à un dialogue avec certains talibans afin de stabiliser la situation et de ramener la paix dans le pays. Un mort, 26 blessés, 3 personnes disparues, des habitations détruites. Bilan provisoire d'un séisme qui a frappé hier soir une île au large de Naples. Un tremblement de terre d'une magnitude 4 sur l'échelle de Richter.
6h03, le journal Germain Treille. Germain, l'homme qui a été abattu près de Barcelone hier, eh bien Younes Abou Yacoub.
Fin de la cavale pour l'homme le plus recherché d'Espagne. 4 jours dans la nature depuis son ignoble forfait sur les Ramblas de Barcelone au volant d'une fourgonnette. 13 personnes tuées, plus de 100 blessés. L'homme le plus recherché d'Espagne donc a été abattu hier en milieu d'après-midi dans la commune de Subirat. Le récit des dernières minutes de cette traque avec la mère de Sant Sadurní, Maria Rossell.
Le terroriste le plus recherché de ces derniers jours en Catalogne a été repéré ici, à Subirat, et grâce à l'intervention de la police catalane, de la police locale et de toutes les forces de sécurité, il a pu être localisé et abattu. Les polices catalanes et locales ont patrouillé 24 heures sur 24 dans la région. Ils ont reçu un coup de téléphone. Cet appel a été passé juste à côté d'ici, près de la station-service de la zone industrielle. Les policiers ont été prévenus, ils sont arrivés, ils ont constaté que c'était bien lui. Et comme il semblait qu'il avait des explosifs, ils l'ont abattu. Il portait une ceinture, mais sans explosifs.
Des propos recueillis par Thibault Lefebvre, l'envoyé spécial de France Inter en Catalogne. Younes Abou Yacoub a également tué un automobiliste quand il a pris la fuite jeudi dernier. 15 personnes ont au total trouvé la mort dans les attaques djihadistes de Barcelone et de Cambrils. Dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. La Croatie brûle, des dizaines de feux ravagent la côte adriatique, une région très touristique. Une partie de l'autoroute entre Zagreb et Split est fermée. Débordés, les pompiers croates ont reçu le soutien de l'armée. La loi travail, c'est la dernière étape. Les concertations reprennent aujourd'hui rue de Grenelle. Ce sont les ultimes rondes de négociations entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux. Première organisation à être conviée aux discussions cet après-midi, le MEDEF. Les syndicats seront reçus à partir de demain. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, est l'invité d'Inter à 8h20.
Mais là, il est 6h05. Germain, à Marseille, la thèse de l'attentat est pour l'instant écartée.
Qui est cet homme de 35 ans qui a foncé au volant d'une camionnette sur deux abribus hier matin? Le geste d'un déséquilibré, le comportement d'un homme à la dérive psychologiquement, qui était soigné dans un hôpital psychiatrique. Aucun élément ne permet de retenir l'acte terroriste, explique la justice, Isabelle Dor.
L'homme n'est pas un terroriste, mais un délinquant et un déséquilibré. Délinquant car plusieurs fois interpellé pour vol, vol avec violence, vol de voiture notamment. Il avait d'ailleurs dérobé la fourgonnette avec laquelle il a foncé sur les abribus hier matin. Et déséquilibré car il a des antécédents psychiatriques. Originaire de La Tronche, une petite ville au nord de Grenoble, il était venu à Marseille pour suivre un traitement dans une clinique psychiatrique d'Allau, une commune limitrophe de la cité phocéenne. Les enquêteurs ont trouvé sur lui, lors de son arrestation, des courriers de cet établissement spécialisé et c'est ce qui les a orientés notamment vers la piste psychiatrique. Interpellé par la police juste avant qu'il ne déboule sur le Vieux-Port et ne fasse davantage de victimes, Idriss, c'est son prénom, a immédiatement été placé en garde à vue où il a subi hier soir un examen psychiatrique. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Et dans cette folie, une femme a été tuée, une autre sérieusement blessée. À Mayotte, des salariés du groupe pétrolier Total sont en grève depuis maintenant 11 jours. Ils protestent contre leurs conditions de travail. Résultat, le département français d'outre-mer connaît de grosses difficultés d'approvisionnement en carburant. Le préfet de Lille appelle au dialogue pour sortir du conflit.
Germain, les amateurs de littérature vont se régaler et avoir le choix.
Ah oui, c'est la rentrée littéraire 2017. 581 romans au total paraissent entre ce mois-ci et fin octobre. C'est le magazine Livre Hebdo qui nous le révèle. C'est une vingtaine de livres de plus que l'an dernier. Bien si le nombre de publications étrangères est sensiblement le même, il y a davantage de romans français et notamment de premiers romans cette année, Lana Morioussef.
Plus de 80 premiers romans, c'est une belle preuve d'optimisme de la part des éditeurs, d'autant que le premier semestre n'a pas été bon et qu'il faut compenser la faiblesse des ventes pendant la période des élections. Pour leur première rentrée littéraire, les éditions de l'Observatoire misent sur Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine, le roman de Magda Goebbels. Les familles, leurs secrets, sont l'un des thèmes de cette rentrée. Citons le livre à quatre mains des sœurs Berest, Anne et Claire. Elles ont conjugué leurs talents pour évoquer leur aïeul, qui fut l'épouse du peintre Picabia. Dans Innocence, Eva Ionesco, qui fut modèle pour des photos érotiques dès l'âge de 5 ans, revient sur son enfance et notamment sur son père. L'Algérie, son passé tumultueux, ses déchirements, sont le sujet du roman d'Alice Zaniter, L'art de perdre, un livre important pour les Français et pour les Algériens. Chez les étrangers, c'est un festival, le turc Orhan Pamuk, prix Nobel, le très rare américain Don DeLillo, le prix Pulitzer Colson Whitehead et en octobre, le feu d'artifice continue avec des nouveaux de Modiano et de Le Clésio, l'automne sera la saison des Nobel.
Un moment magique, féerique. Aux États-Unis, l'éclipse solaire était totale. En France, elle était invisible, sauf dans le Finistère, où des passionnés d'astronomie ont vécu cet événement. On en reparlera dans la matinale. Chez nous, il faudra attendre l'année 2081 pour de nouveau admirer une éclipse solaire totale.
Patience. On sera pas là. 2081. Bon. Germain Treille, c'était le journal. Voici la météo avec Sébastien Léas de Météo France. 2081.
La journée s'annonce bien ensoleillée, des côtes de l'Atlantique aux frontières de l'Est jusqu'aux rivages de la Méditerranée. En Normandie, il faudra attendre la dissipation des brouillards matinaux pour retrouver le beau temps. Et au nord de la Seine, jusqu'aux frontières belges et au plateau lorrain, ce sont des nuages bas qui empêcheront le soleil de s'imposer dès le lever du jour. Au fil des heures, ces nuages vont se disperser pour laisser place à un après-midi sous le soleil. À cause d'un voile nuageux, le ciel sera un peu plus variable sur le Finistère ce matin et du Pas-de-Calais à la Normandie jusqu'en Loire-Atlantique et en Charente-Maritime cet après-midi, mais l'impression restera belle. On notera quand même quelques plaques de grisaille localement présentes sur les plages de l'Aquitaine et du Languedoc-Roussillon. Cet après-midi, il va faire chaud avec des maximales au-dessus des normales de saison. Prévoyez 27 degrés à Saint-Lô, Quimper, Valenciennes et Strasbourg, 28 degrés à Antibes et Sainte-Marie-de-la-Mer, 29 degrés pour Paris. On ira jusqu'à 31 degrés à Figari et Bourg-en-Bresse, 33 degrés à Mont-de-Marsan, Angers, Vichy et Tulle et même jusqu'à 37 degrés pour Albi.
Voilà pour la météo, la circulation ce matin au PC Mobilité, Johanna Yakin. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Rien à signaler pour l'instant?
Non, pas de difficulté majeure à cette heure-ci, c'est très fluide. Juste en région parisienne, je vous rappelle simplement que la 86 est fermée dans les 200 centres Bobigny et la Courneuve pour des travaux.
Merci Johanna. Dans quelques secondes, le journal des sports avec Vincent Pellegrini.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends pour des enregistrements du Jeu des 1000 euros. Dans le Pas-de-Calais, aujourd'hui mardi 22 août à Grosvilliers à 18h30, puis en Seine-Maritime, demain mercredi à Dieppe et jeudi à Harfleur. À très bientôt pour les 1000 euros.
6h10.
France Inter. Le 6-7.
Et voici Vincent Pellegrini. Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre.
C'est le journal des sports. Les joueuses de l'équipe de France de rugby visent ce soir une qualification historique pour la finale de la Coupe du Monde de rugby.
Et oui, elles affrontent l'Angleterre à Belfast en Irlande du Nord. Les Bleues ont échoué à 6 reprises en demi-finale. Ce soir, elles ne partent pas favorites face aux championnes du monde en titre. D'autant que, contrairement à leurs adversaires du jour, elles ne sont pas professionnelles, Fanny Le Chevestrier.
Employée le jour, joueuse de rugby le soir, c'est une image un brin exagérée, mais pas si loin de la réalité. Car si quelques joueuses, 5 sur les 15 titulaires ce soir, sont membres de l'équipe de France à 7 et salariées par la fédération pour 2000 euros par mois, les autres cumulent le rugby avec leurs études ou un métier à côté. Safi Ndiaye, quadruple championne de France, est par exemple éducatrice spécialisée. La pilier, Julie Duval, magasinière dans une quincaillerie. Les choses commencent seulement à évoluer. La demi-mêlée, Yana Rivo-Allen, prof de PS, bénéficie ainsi depuis 3 ans d'un contrat de sportif de haut niveau possible avec l'éducation nationale.
Je suis payée à temps complet, mais je travaille à mi-temps. Avant, j'avais pas de récup, je faisais mes séances entre deux cours, j'enfilais les baskets et puis j'allais courir sur le stade à côté. Donc, ça a révolutionné ma vie sportive.
Pour libérer du temps aux joueuses, des conventions d'indemnisation ont aussi été signées par la fédération avec les entreprises qui les emploient. Mais pour le moment, pas question de statut professionnel. Toutes ne le souhaitent pas d'ailleurs, voulant assurer l'après-rugby et gagner leur vie. En cas de sacre mondial, les Françaises percevront une prime de 16 000 euros. À Belfast, Maya Pavlenko, Fanny Le Chevestrier, France Inter.
Voilà, France-Angleterre, coup d'envoi à 20h45. L'autre demi-finale opposera la Nouvelle-Zélande aux États-Unis.
Vincent, le défi est de taille ce soir pour les footballeurs niçois en barrage de la Ligue des Champions.
Et oui, au match aller, les Niçois se sont inclinés 2-0 face à Naples. Ce soir, ils devraient pouvoir compter sur leurs attaquants vedettes, Mario Balotelli et Wesley Sneijder, absents la semaine dernière. Deux renforts de choix au moment d'affronter une équipe napolitaine redoutable, estime le défenseur niçois Christophe Jallet au micro de Jean-Baptiste Marie.
Je pense que toutes les équipes contre eux sont sur le fil. Ça se joue à chaque fois pas grand chose. On voit que même quand ils arrivent pas à se trouver, ça se joue à 50 cm. C'est vraiment une équipe avec une grosse qualité technique. Donc évidemment, nous, on sera obligé de se livrer un petit peu puisqu'on est obligé de revenir au score. Ce qui va leur laisser des espaces. Sachant déjà quand il n'y en a pas, ils arrivent à se trouver. Évidemment que ça sera difficile. Mais voilà, c'est le lot quand on joue contre des équipes de haut niveau, de très haut niveau même. Donc, ce sera à nous de faire un match quasi parfait si on veut réussir à revenir au score.
Oui, GC Nice, Naples, le coup d'envoi ce soir à 20h45. Match en retard de la 4e journée de Ligue 2 hier soir. Châteauroux à domicile a battu Nîmes 1-0. En Angleterre, Manchester City a concédé le nul 1 partout face à Everton. Deuxième but en 2 journées pour Wayne Rooney, qui est revenu à Everton, son club formateur cette saison.
Chris Froome fait déjà la course en tête dans le Tour d'Espagne cycliste, Vincent.
Ouais, dès la première étape de montagne à Andorre-la-Vieille, le Britannique a pris le pouvoir. Il a terminé 3e d'une étape remportée par l'Italien Vincenzo Nibali. Le Français Romain Bardet a été l'un des animateurs de la journée, lui qui vise d'abord des victoires d'étape dans cette Vuelta.
Je voulais vraiment gagner, je me suis fait surprendre, jusqu'avant j'avais bien couru. Bon, mais c'est plutôt bien, je rentre bien dans cette Vuelta, donc à ce moment-là j'ai pas l'habitude de général, je prends les étapes une après les autres, comme chaque fois pour une opportunité pour une victoire d'étape, donc je suis content. J'étais mal placé au pied, j'ai fait un gros effort, mais sur le haut avec Aro on a réussi à rentrer sur Froome. Voilà, donc c'est bien, je me sens plutôt bien pour le début de la Volta et vivement la suite.
Romain Bardet au micro d'Antoine Plouvin, le Français est 10e du général à 48 secondes de Chris Froome. Aujourd'hui, 4e étape de ce Tour d'Espagne entre Andorre et Tarragone, une étape a priori favorable aux sprinteurs.
C'était le journal des sports avec Vincent Pellegrini. Bienvenue à l'écoute du 6-7 de France Inter. Nous sommes ravis de vous accompagner, de vous informer. Et pour accompagner votre réveil, voici un réveil avec une guitare qui va aller crescendo dans une sorte de tension musicale. Valparaiso et Dominique à marée haute.
Marée haute du ressentiment, visage émacié sur la digue. Que faire de sa colère? Que faire de sa fatigue? Fable validée sous serment, marée haute. Tu y croyais comme l'enfant peut croire. À qui la faute? Alors va pour la partager, mais en être accablé à d'autres. Marée haute. Traîtrise des roses, marée haute. Chemise noire, délavée. Quelle idée aussi de lutter quand le vent va d'un seul côté. Regard perdu sur la digue. Les récifs donnent sans compter. Naufrage, naufrage. Ton âge t'y a préparé. Naufrage. Combien pour t'y pousser? Traîtrise des roses, marée haute. Commençait déjà de trembler. Mais c'était pas ta faute. Lesté de plomb qui peut flotter. Marée haute. Visage tendu sur la digue. Et main à paume.
Sur l'album Broken Homeland de Valparaiso et Dominica, Marée haute, 6h17. Salutaire papier sur le site de l'Obs il y a quelques jours, signé René Grezard à propos de ses messages sur les réseaux sociaux après les attentats de Barcelone. Les messages, j'y étais. J'étais sur la Rambla il y a un mois, un an, trois ans, une semaine. Parfois, pour illustrer ses commentaires sans intérêt, des photos souriantes prises lors de ses séjours. Ceux qui écrivent ces tweets expriment leur solidarité avec les victimes, avec sous-entendu, cela aurait pu m'arriver. Les réseaux sociaux, hélas, trop souvent le lieu de l'indécence, parler de soi à tout prix rend-il idiot? Alors comment réagir? L'Obs le souligne, malgré ces moments d'horreur absolue liés au terrorisme, eh bien les internautes répondent au « j'y étais » avec humour en se moquant. Exemple, sur Twitter, et dire qu'il y a 47 jours, j'étais à Rennes, à seulement 1100 km de Barcelone, ça fait froid dans le dos. Ou encore Barcelone, et dire qu'il y a 6 ans j'y étais, enfin c'était à Venise en Italie, mais j'aurais pu y être, c'est flippant. J'y étais en 2001, à 16 ans près je l'ai échappé belle. Non, j'y étais en 2005, j'ai risqué plus que toi.
Le 6-7 sur France Inter.
6h18, Emmanuel Moreau, esprit d'initiative, les rediffusions des meilleures chroniques et ce matin le portrait d'une jeune femme qui lutte contre la progression du désert en Tunisie en y plantant des arbres.
Le désert avance un peu plus chaque année en Tunisie. Actuellement, 75% des terres sont en cours de désertification, ce qui est une vraie difficulté pour les agriculteurs déjà touchés par le réchauffement climatique. Alors, pour lutter contre cet ensablement et cette paupérisation, une jeune franco-tunisienne de 29 ans a décidé d'enrayer ce phénomène en créant des oasis avec les cultures qui vont avec. Elle s'est ainsi mise à planter des milliers d'arbres pour d'abord fixer les dunes. Sarah Toumi, pour créer cette barrière verte dans le désert, vous n'avez pas choisi n'importe quel arbre. Vous avez opté pour un arbre généreux.
J'ai choisi l'acacia parce que c'est un arbre particulièrement adapté aux zones arides. Et c'est aussi un arbre qui a un système racinaire, donc qui va aller puiser l'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur et ramener cette eau à la surface. Et en fait, c'est un double système racinaire. Donc la grosse racine va chercher l'eau et puis il y a des petites racines qui partagent les ressources avec les autres arbres. Ce qui nous permet par la suite de replanter des espèces locales comme l'olivier, l'amandier, le dattier et donc de recréer des oasis.
Donc en fait, il sert un peu de pompe à eau. C'est lui qui va chercher l'eau pour nourrir tous ceux qui sont autour de lui.
Absolument, l'acacia, c'est un arbre généreux qui vraiment permet de transformer le désert en oasis, justement, en allant chercher l'eau qui est inaccessible pour d'autres espèces d'arbres. Par exemple, l'olivier, ses racines vont que jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc l'acacia va faire le travail d'aller chercher l'eau et puis la partager avec eux.
Et Sarah, alors ces oasis que vous arrivez à constituer, elles sont plantées de quoi ?
Alors les oasis, elles sont plantées d'une vingtaine d'espèces différentes. Imaginez que c'est un terrain désertique, c'est des dunes de sable, où il n'y a rien du tout. On commence par planter des acacias donc pour stopper l'avancée du désert, pour arrêter les dunes et pour stabiliser le sol. Et ensuite, on plante à l'intérieur les autres espèces. Donc ça fait ce qu'on appelle des jardins-forêts, ces oasis, avec la culture en étage. Donc au sol, on a des cultures couvre-sol, comme par exemple des fèves, des plantes aromatiques. Puis ensuite, on a les arbres fruitiers comme l'olivier, le grenadier, le citronnier. Et après, on a les grands arbres comme les dattiers.
Et tout ça grâce à l'acacia. Aujourd'hui, vous avez réussi à constituer combien d'oasis de ce genre ?
Aujourd'hui, on est en train de reconstituer 14 oasis à travers la Tunisie, dans 14 régions différentes. Et on se base en fait sur un réseau d'ambassadeurs locaux. Donc c'est des gens qui ont décidé de s'engager avec nous bénévolement, qui aiment leur région et qui n'ont pas envie justement qu'à cause du réchauffement climatique et à cause de la désertification, ils n'ont pas envie que leur famille ait à se déplacer. Ils ont envie de pouvoir rester dans leur région, de pouvoir vivre dignement. Et donc c'est pour ça qu'ils s'engagent avec nous. Parce qu'en plantant les arbres, à la fois on protège les écosystèmes, mais aussi on protège leur maison de l'ensablement. Et puis on crée des revenus pour leurs enfants et pour eux-mêmes.
À ce jour, vous avez planté combien d'acacias ?
À ce jour, on a planté un peu plus de 200 000 arbres, dont environ 100 000 acacias. Et on prévoit d'en planter 1 million en Tunisie d'ici fin 2018 et de démarrer le 1 million au Maroc à partir de novembre 2017.
Sarah, vous avez abandonné vos études que vous faisiez en France, vous avez fait de la littérature, vous avez fait différentes, même de la médecine, pour justement vous consacrer à vos arbres.
Oui, en fait, juste après la fin de mon master en littérature française, j'ai quitté la France et je me suis installée en Tunisie. Le déclic, c'est le décès de mon père en 2012. C'est ça qui m'a fait prendre conscience que justement la vie est trop courte pour laisser attendre nos rêves. Et je me suis dit, tu n'as rien à perdre, tu viens de finir tes études, tu es diplômée. Passe 6 mois et tu verras ce qui se passe. Et puis, ça fait 5 ans que j'y suis.
Voilà, Emmanuel Moreau, Esprit d'Initiative, à réécouter sur franceinter.fr. Et maintenant, on part très loin.
France Inter, le 6-7.
Voici le journal d'Outre-mer Première avec Benoît Ferrand. Benoît, à l'île de la Réunion, les étudiants ont retrouvé le chemin des salles de cours hier matin.
Une rentrée marquée par le lancement d'une prépa, d'une classe préparatoire aux concours administratifs, et c'est la réalisation d'un engagement qui avait été pris par le président de la République en personne, François Hollande, lors de son passage dans le département de l'océan Indien en août 2014. Frédéric Miranville est le président de l'Université de la Réunion. Il est au micro de Delphine Poudroux.
C'est une nouveauté pour l'Université de la Réunion, mais c'est une nouveauté au niveau national, puisqu'on ouvre une classe préparatoire au concours des fonctions publiques, et c'est inédit en France, hexagonale et ultramarine. Cette classe préparatoire, elle découle d'un engagement du président de la République à l'époque, en 2014, qui souhaitait effectivement faire en sorte que beaucoup plus d'ultramarins accèdent à des postes à responsabilité, et que donc ils soient mieux préparés au concours des fonctions publiques de catégorie A, et à plus, tout en souhaitant que les promotions qui intègrent ce type de parcours d'excellence soient des promotions qui soient aussi issues de la diversité.
En Guadeloupe, le trafic aérien a repris sans problème hier à l'aéroport Paul Caraïbe, l'aéroport de Pointe-à-Pitre, après plusieurs vols annulés et des retards dimanche suite à l'éclatement d'un pneu d'un avion de la compagnie Air Caraïbes à l'atterrissage. Un incident qui a semé des débris sur la piste et qui a donc conduit à l'annulation des vols en soirée et à de nombreux retards. L'évacuation des passagers, elle, s'est faite dans le calme, a souligné le directeur régional de la compagnie, qui a précisé que l'avion avait été déplacé jusqu'en zone de fret pour être réparé le plus rapidement possible. Les passagers, eux, ont été évidemment un peu secoués lors de cet atterrissage non orthodoxe. Ils témoignent au micro de Christelle Théophile.
On est resté assez longtemps à attendre, ils ne nous ont pas donné d'explications, mais j'ai ressenti que lorsque l'avion a atterri, elle a atterri brusquement. Après, on est resté longtemps à attendre, à patienter.
C'était une femme qui conduisait l'avion, ce qui est remarquable déjà. Bon, on a vu que ça a bougé à l'atterrissage vraiment parce que l'avion s'est déporté un peu à droite, un peu à gauche. Mais bon, c'était... Et puis après, assez vite, l'avion s'est arrêté. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas rouler après. Et après, on a annoncé que l'avion était endommagé.
Bon, on a entendu un bruit, mais personnellement, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un souci, quoi. C'est d'autres passagers du vol. Et sinon, ils nous ont tout simplement dit qu'il y a eu un pneu éclaté, donc de patienter pour le débarquement.
En bref, c'est officiel. La plus grande ferme aquacole du monde sera installée en Polynésie française. Le président du gouvernement local et les investisseurs chinois à l'origine du projet ont conclu l'accord définitif. Premier coup de pioche le 9 décembre prochain sur l'atoll de Hao. Les travaux devant durer 2 ans. 250 emplois vont être créés, dont 95% reviendront à des Polynésiens. Bonne journée.
Bonne journée Benoît Ferrand, le journal d'Outre-mer Première.
France Inter, le 6-7, Grand Angle.
Oui, Grand Angle à 6h26, bientôt la fin de l'été, bientôt la fin d'un rythme ralenti. Les communes préparent la rentrée avec un budget serré. Depuis quelques semaines, les maires ont découvert de sérieuses coupes financières, un effort budgétaire des collectivités de 13 milliards d'euros au lieu de 10 sur le quinquennat, une ligne de crédit aux collectivités de 300 millions d'euros supprimée cette année, sans compter la réduction des contrats aidés, et la fin programmée de la taxe d'habitation. Comment gère-t-on ces coups de rabot ? Reportage à Igny, 10 000 habitants dans l'Essonne, sur le plateau de Saclay, avec Delphine Evenou.
Francisque Vigouroux le dit lui-même, les chiffres et le budget, c'est son truc. Mais aujourd'hui, équilibrer les comptes...
C'est pas très facile.
Car avec la baisse des dotations de l'État depuis 2014, il fait avec 600 000 euros de moins par an. Et toutes les économies sont bonnes à prendre, vraiment toutes.
Les mariages sont assurés entièrement par les élus. Il n'y a plus de personnel pour effectuer les mariages. Lorsqu'on fait les commémorations, 8 mai, 45, 11 novembre, elles sont assurées par les élus.
Vous gagnez combien avec ça, par exemple ?
Je pense qu'on doit être environ autour de 2 000 euros. Mais 2 000 euros, ça me permet de... payer des opérations pour les enfants, d'animation, etc.
Économie d'électricité et d'eau, réorganisation des moyens humains, fusion de services avec des communes voisines. La municipalité rogne de partout. Avec les 3 millions d'euros annuels de taxes d'habitation en moins qui s'annoncent, Francisque Vigouroux commence à avoir des sueurs froides.
C'est forcément toute une chaîne qui va se détériorer de services publics de proximité qui impacte directement les familles. MJC, crèche, maison de retraite, services périscolaires, cantines. On gère des gymnases qui impactent la vie associative et la vie sportive.
D'ailleurs, les écoliers doivent déjà apprendre à patienter. Leur école des années 70 est en réfection, en mode piano-piano. Thibaut Martel est le directeur des services techniques.
La première année, on va refaire l'étanchéité, et puis l'année prochaine, on va faire toute l'isolation par l'extérieur. D'un point de vue travaux, ça aurait pu se faire sur l'été, mais voilà, on a aussi des questions effectivement budgétaires qui font que une rénovation complète d'une école sur un exercice budgétaire, c'est juste pas possible.
Des projets au ralenti ou à l'arrêt, Francisque Vigouroux a renoncé à un espace de coworking.
Sachant qu'on navigue dans le grand flou sur 2018, je ne me sens pas capable de le porter si je suis lâché en plein milieu de la rivière par l'État.
Et quand la semaine dernière, il entend le Premier ministre Édouard Philippe dire.
Si les emplois aidés avaient été un instrument efficace de lutte durable contre le chômage, ça se serait vu.
Il sourit, la ville d'Igny a pérennisé 2 contrats aidés. Francisque Vigouroux se revendiquait Macron compatible il y a quelques semaines. L'été a rafraîchi son enthousiasme.
Reportage de Delphine Evenou, Le Grand Angle sur le site franceinter.fr.
Quand on approche les rescapés, on sent vraiment la détresse. Ils sont là, au milieu de nulle part. Les 4500 morts en 2016, ils sont morts noyés, en tendant la main en espérant que quelqu'un vienne les chercher.
Antoine est sauveteur à bord de l'Aquarius. Chaque jour, les équipes de SOS Méditerranée secourent hommes, femmes et enfants en détresse. Vous aussi, vous pouvez sauver des vies. Faites un don sur sosméditerranée.fr.
SOS Méditerranée, labellisé Grande Cause Nationale 2017.
Quel temps aujourd'hui en ce mardi 22 août ? Réponse avec Stéphanie Fromentin. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Pierre Veil, bonjour à tous.
Il fait chaud sur tout le pays et très chaud dans le sud-ouest.
Oui, les températures matinales s'échelonnent de 8 à 12 degrés sur le nord-est, 10 à 18 ailleurs, jusqu'à 22 dans le Var et en Corse. Cet après-midi, la chaleur gagne tout le pays, hormis les côtes de la Manche où le mercure ne grimpe que jusqu'à 24 degrés au mieux. Sinon, il faudra compter entre 25 à 34 degrés en général, jusqu'à 36 en Occitanie.
Et Stéphanie, le ciel est lumineux, même si quelques nuages résistent.
Au lever du jour, des Hauts-de-France jusqu'aux frontières luxembourgeoises, le ciel est encore nuageux, avec quelques gouttes possibles, même surtout sur le Finistère. Après dissipation des quelques brumes et brouillards matinaux sur le bord de Manche, le ciel est plutôt lumineux de la Bretagne au Pays de Loire jusqu'en Normandie, parsemé quand même de nuages élevés. Partout ailleurs, le soleil brille généreusement toute la journée. Cet après-midi, alors que le front chaud s'évacue à la mi-journée par les frontières du Nord, des nuages d'altitude viennent parsemer le ciel du Poitou-Charentes et des Pays de Loire au Hauts-de-France en se décalant vers le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté au fil des heures. Quelques gouttes très localisées sont possibles. Des cumulus se développent sur le relief pyrénéen et des nuages bas bordent les côtes du Finistère, l'Andaise et du Golfe du Lion, poussés par un vent d'autant qui souffle modérément 50 km par heure.
Vous venez de vous réveiller et vous avez raté la météo de Stéphanie Fromentin. Elle revient juste avant 7h. Là, il est 6h30. Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. C'est le dossier chaud de la rentrée. Le gouvernement présente à partir d'aujourd'hui au patronat et aux syndicats sa réforme du Code du travail. Une future loi qui refait déjà contre elle l'union de la gauche. Une première sous la 5e République, l'épouse du chef de l'État aura désormais un rôle officiel. Nous verrons comment ça se passe chez nos voisins européens. Fin de partie pour les djihadistes, auteurs des attentats de Barcelone et Cambrils. Le conducteur du van a été abattu hier après-midi par la police catalane. L'imam, soupçonné d'être leur mentor, a été identifié parmi les décombres de la villa où les terroristes préparaient leurs attaques.
France Inter.
La pré-rentrée sociale, ça commence aujourd'hui. Le gouvernement rencontre patronat et syndicats pour présenter le détail des ordonnances sur la réforme du Code du travail. C'est le MEDEF qui ouvre le bal cet après-midi, suivi jusqu'à vendredi par les représentants syndicaux. Parmi les points qui restent à arbitrer, le plafonnement des indemnités versées aux prud'hommes en cas de licenciement abusif. Et avant même de connaître la version définitive des ordonnances le 31 août, la CGT appelle déjà à manifester le 12 septembre prochain. Jean-Luc Mélenchon le 23. En attendant, la future loi travail est une aubaine pour l'union de la gauche contre ce qu'il dénonce comme une casse du code du travail. Socialistes, communistes et insoumis repartent presque ensemble au combat. Laurence Perron.
Convergence des luttes, acte 1. On est début août, le recours devant le Conseil constitutionnel de 60 parlementaires, socialistes, communistes et insoumis.
Je rappelle que...
Rachid Temal, membre de la direction du PS.
Les parlementaires socialistes, notamment Olivier Faure, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, a pris contact avec les groupes communistes et les groupes France Insoumise. Donc le Parti socialiste a toujours vocation à travailler avec d'autres.
De là à faire manifestation commune, bras dessus, bras dessous, on n'y est pas encore. Au PS, on parle de rencontres préalables avec les partenaires sociaux. Quand insoumis et communistes veulent déjà jouer la rue, Daniel Obono, député insoumise de Paris.
On sait qu'il y a des lois qui ont été votées et qui n'ont finalement pas été appliquées parce qu'il y avait suffisamment de mobilisation sociale. Donc ça va être effectivement un test pour le gouvernement qui n'a pas non plus une légitimité d'en faire.
Et là, c'est la ministre du Travail qui est visée. La plus-value de 1 million d'euros suite à la vente de Stock Option en 2013, alors que Danone, l'entreprise où elle était DRH, venait de licencier 900 personnes. Légal, mais immoral, cingle Olivier Dartigolle, porte-parole du Parti communiste.
Elle était bien sûr disqualifiée, mais de toute manière, après, le gouvernement n'en fait qu'à sa tête. Il y a dans le macronisme aujourd'hui une escalade dans un autoritarisme ultra-libéral, très brutal, très injuste.
Et les communistes comptent bien sur la prochaine fête de l'UMA, en temps fort annoncé de la convergence des luttes, en attendant la vraie union.
C'est un document publié hier par l'Élysée, la charte de transparence relative au statut du conjoint de chef de l'État. Elle s'appliquera à Brigitte Macron, avec un rôle de représentation sans rémunération ni budget, mais avec des frais et des conseillers fournis par la présidence. Un statut unique parmi nos voisins européens. Correspondance à Bruxelles de Lax Milota.
Ce statut n'existe pas en Europe. Il y a ceux qui continuent à vivre leur vie et travailler. En Allemagne, le mari d'Angela Merkel est très discret, ne donne quasiment pas d'interview. Physicien reconnu, Joachim Sauer n'a pas assisté aux cérémonies d'investiture de son épouse. Il n'a ni garde du corps ni titre officiel et cette réserve est appréciée par la population. Au Royaume-Uni, Philippe May, le First Gentleman, ne joue pas non plus de rôle officiel. Le conjoint de Theresa May est peu connu. Il continue à exercer sa profession banquier. En Grèce, Espagne, Italie, au Luxembourg ou encore en Suède, aucune prérogative pour les conjoints, si ce n'est la possibilité d'accompagner le chef d'État ou de gouvernement dans ses voyages officiels. La Slovénie prévoit une rémunération pour les dépenses protocolaires du conjoint du président. Dans la pratique donc, à part quelques activités caritatives, les conjoints assument principalement le rôle d'hôte lors de visites diplomatiques et participent aux visites à l'étranger où un programme d'activité leur est souvent réservé. Laxmilota, France Inter. Bruxelles.
La traque du dernier suspect des attentats de Barcelone et Cambrils a pris fin hier. La police catalane a abattu hier après-midi Younes Abou Yacoub. Ce Marocain de 22 ans était vraisemblablement le conducteur de la camionnette qui a semé la mort sur les Ramblas. Les autorités ont également confirmé la mort de l'imam marocain Abdelbaki Essati. Soupçonné d'être le mentor de la cellule terroriste, ses restes ont été identifiés dans la maison qui avait explosé mercredi soir à Alcanar, à 200 km de Barcelone. Sur les 12 membres identifiés de cette cellule djihadiste, 8 sont donc morts. Les 4 hommes actuellement en garde à vue seront présentés aujourd'hui au tribunal de Madrid. Donald Trump exclut tout retrait d'Afghanistan. Dans un discours retransmis à la télévision, le président des États-Unis a ouvert la porte à l'envoi de soldats supplémentaires, sans toutefois donner de chiffres. Le président américain qui s'est dit prêt à envisager également un dialogue avec une partie des talibans. Sur l'île d'Ischia, au large de Naples, en Italie, un tremblement de terre hier soir de magnitude 4. Le bilan provisoire est d'un mort et d'un disparu. Les secouristes tentent ce matin de sauver 3 enfants repérés en vie sous les décombres. De moins en moins de migrants cet été sur les côtes italiennes. La baisse est de 4% par rapport à l'an dernier. Elle s'est particulièrement accrue en juillet, conséquence notamment du rôle joué par les gardes-côtes libyens. À Rome, Marie Duhamel.
Rome se félicite de la récente fermeté des autorités libyennes. L'ancienne colonie italienne a en effet renforcé ses opérations de recherche en mer et désormais, ses gardes-côtes formés par l'UE ramènent les migrants embarqués et secourus sur le sol libyen. Ils n'arrivent donc plus en Italie, une réalité qui n'explique pas cependant cette baisse massive du mois de juillet. Flavio Di Domenico est le porte-parole de l'Organisation internationale des migrations en Italie.
Les gardes-côtes libyens dans le mois de juillet ont secouru 785 migrants. Donc ça n'explique pas la diminution de 11 000 migrants par rapport au juillet de l'année dernière.
L'OIM exclut également de considérer la suspension des opérations de sauvetage de 3 ONG humanitaires comme une explication. Il n'y a pas moins de sauvetage, mais en réalité, moins de départs depuis la Libye, selon Flavio Di Domenico.
On sait qu'il y a eu des confrontations entre des groupes de trafiquants en Libye. C'est une chose que nous a été dit par les migrants qui sont arrivés en Italie. On sait très bien que la situation en Libye peut changer d'ici des semaines, donc pour attendre au moins 2 ou 3 mois.
Il faudra également attendre pour savoir si les routes empruntées par les migrants pour rejoindre l'Europe ont véritablement changé. Pour l'instant, l'OIM n'établit pas de corrélation entre l'augmentation des arrivées en Espagne et la baisse constatée en Italie. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
Un mot de sport pour terminer. L'équipe de France féminine de rugby affronte ce soir à Belfast l'Angleterre en demi-finale du Mondial 2017. Ça ne sera pas facile face aux tenantes du titre, mais les Françaises peuvent compter sur le soutien du public. 2,5 millions de téléspectateurs ont regardé leur dernier match jeudi sur France 2. Et Pierre, je sais que vous serez devant votre télé ce soir.
Évidemment, c'était le journal de Corinne Audouin, La Circulation avec Johanna Yakin. Johanna, des difficultés dans le nord de la France.
Oui, dans le Nord-Pas-de-Calais d'abord, sur la 1, on a 6 km de bouchons dans les deux sens à hauteur d'Hénin-Beaumont, probablement à cause d'un accident dans le secteur. On a également un accident qui pose problème dans le département du Nord sur l'A26 à Quentin-sur-Escaut. Quand on roule en direction du Nord, là aussi, on est pas mal ralenti dans le secteur. Et puis prudence également dans le département du Cher. On a aussi un accident sur l'A71 à hauteur de Quincy, direction Orléans.
Merci Johanna.
Cet été sur France Inter,
du lundi au vendredi à partir de 10h.
Ciné qui chante, l'émission qui aime autant le cinéma que la chanson.
Laurent Delmas.
De tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, à des hommes et des dieux, du miraculé à Sœur Sourire, des films, des chansons, des chanteurs et Jésus.
Ciné qui chante.
Tout à l'heure sur France Inter.
Bon, maintenant assez parlé et musique.
À partir de 10h.
Vous aimez être à la pointe du chic ?
DS Automobile présente DS3 Connected Chic.
Avec ses jantes-alliages diamantés, sa navigation tactile, sa caméra de recul, sa robe biton et son pavillon flottant, cette citadine produite en France combine merveilleusement élégance et technologie.
DS Automobile.
Jusqu'au 31 août, pour l'achat de DS3 Connected Chic, DS Automobile reprend votre véhicule 3000 euros au-dessus de sa valeur. Détails de l'offre sur dsautomobile.fr.
Bienvenue à l'écoute du 6-7 de l'été. Nous sommes le mardi 22 août. En 1862, le 22 août, naissait le compositeur Claude Debussy. En 1908, c'était la naissance d'Henri Cartier-Bresson. Et puis le 22 août 1962, c'était l'attentat manqué au petit Clamart contre le général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Micheline Prel. Née en 1922, le soleil va se lever là très bientôt, à 6h55, et il se couchera à 20h51. Et l'extrait de Bette Dido de son album, la chanteuse du groupe Gossip Bette Dido, voici Fire.
Had a stupor, sitting on the side of the road. Ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. What I felt, it can't be held no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way it is. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walk on a fine line might not lead to home. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way.
Bette Dido, elle sera au Bataclan à Paris le 7 octobre prochain.
France Inter, le 6-7.
À 6h42, Lionel Thompson est avec nous. Bonjour Lionel.
Bonjour Pierre.
Avec vous la revue de presse tout à l'heure, à 8h30, dans le 7-9 de Nicolas Demorand. Mais tout de suite avec vous les unes de la presse, Lionel.
La folle spirale, c'est le titre du Parisien ce matin qui s'inquiète après qu'un déséquilibré ait foncé avec sa voiture contre un abribus hier à Marseille, tuant une personne et en blessant une autre. Quand les fous copient les terroristes, sous-titre Le Quotidien. Un phénomène dont s'alarme aussi Jean Lavallois dans la presse de la Manche qui écrit « La répétition de la folie meurtrière extrémiste a fini par atteindre la folie ordinaire de personnes souffrant de lourds déséquilibres psychiatriques et qui, sans plus de références islamiques, passent à l'acte. » La Provence et la Marseillaise consacrent leur une ce matin à ce coup de folie meurtrier. Un coup de folie qui sème la panique, selon la Marseillaise. tandis que la Provence se penche sur les mystères du psycho au fourgon bélier. Le site d'information Huffington Post se pose aussi la question ce matin sous le titre « Le choix des mots, M-A-U-X, terroriste ou fou ?» Et le site a demandé à deux psychiatres experts pour les tribunaux si cette distinction est vraiment pertinente. Il est vrai qu'on peut être l'un et l'autre, terroriste et fou. La rentrée politique et sociale, toujours à la une de vos journaux ce matin. Libération titre à son tour aujourd'hui sur la nouvelle loi travail en préparation. 10 jours à haut risque, titre Le Quotidien. Pour la Croix, la loi travail, c'est le dossier chaud de la rentrée. Le Quotidien qui a mis une photo d'Emmanuel Macron en une sous le titre « Dans le vif du sujet ». Dans l'éditorial qui accompagne cette une, Guillaume Goubert estime qu'Emmanuel Macron s'est plutôt bien débrouillé au cours des 100 premiers jours de son mandat, mais il concède que son quinquennat n'a pas véritablement commencé. Emmanuel Macron également à la une du Figaro, mais plutôt sur le front européen. Travailleurs détachés, Macron relance l'offensive, titre Le Quotidien, qui anticipe sur la tournée en Autriche, en Roumanie et en Bulgarie du président français à partir de demain. Une tournée où il devrait défendre sa volonté de durcir les règles du travail détaché, rappelle Le Figaro, qui souligne que c'est à la fois un enjeu économique et politique. Pour Le Monde, cette rentrée se fait sur fond de surchauffe des cabinets ministériels. Le Quotidien du soir daté d'aujourd'hui explique comment la limitation du nombre de conseillers ministériels provoque déjà l'épuisement des équipes alors que le quinquennat ne fait que commencer. L'Humanité prend de son côté ce matin le contre-pied de ceux qui parlent d'embellie économique. Le nombre de familles privées de logement aurait augmenté de 39% en un an, selon Le Quotidien, qui cite des chiffres publiés par la Fédération des acteurs de la solidarité. Loin de cette réalité-là, les Échos font ce matin leur une sur le nouveau pari de Total en mer du Nord. Le rachat par le pétrolier français du Danois Maersk pour plus de 7 milliards de dollars, qui fait de Total le deuxième opérateur en mer du Nord. Et puis pour terminer, alors que les vacances d'été ne sont pas encore tout à fait achevées, cette une du Midi Libre, plage, les femmes remettent le haut, puisqu'il paraît que le monokini n'est plus à la mode. C'est vrai qu'avec la météo plutôt maussade ces derniers jours, on a moins envie de se découvrir.
Merci Lionel, la revue de presse avec vous tout à l'heure, 8h30, Lionel Thompson. Et comme tous les jours, la presse quotidienne régionale, avec nous Carole Bouillet, qui est rédactrice en chef déléguée aux informations locales du journal L'Union Lardonnais. Bonjour Carole.
Bonjour.
Dans votre journal, un papier consacré à une campagne de sensibilisation qui va être lancée et qui concerne les transports en commun. Une compagnie qui s'appelle la CITAC à Châlons, et cette campagne fait polémique.
Oui, alors l'apparition de gros autocollants rouges affichant les nouvelles règles à bord des bus de la ville de Châlons-en-Champagne ont suscité vraiment un véritable tollé, notamment sur les réseaux sociaux. Alors on peut y voir des pictogrammes avec 5 interdictions. Pas le droit de monter à bord avec son chien, avec de la nourriture, avec un casque audio, avec un vélo et même avec une poussette. Alors la colère des usagers a rapidement pris le pas sur la surprise et l'étonnement. La CITAC, qui gère les bus de la ville, a expliqué qu'il s'agissait d'une nouvelle campagne pour appeler les usagers à plus de civilité. Mais face à l'ampleur de cette affaire, l'agglomération a dû faire machine arrière et les autocollants vont être retirés. La campagne sera quant à elle remaniée, ce qui devrait ramener, on l'espère, le calme dans les esprits des Châlonnais.
Mais pourquoi est-ce que ça crée polémique, le fait de rappeler des comportements corrects et élémentaires ?
Alors, entre la civilité et puis après le bon usage du bus, c'est pas qu'il y a une frontière qui est mince, mais qui est vite franchie par notamment par les internautes sur les réseaux sociaux qui s'inquiétaient de voir les parents rester sur le bord de la route à l'arrêt de bus avec leurs poussettes et leurs enfants.
Très bien. Alors, autre reportage dans votre journal, ça concerne un lieu, la friche Maury. Et là, les élus sont en colère contre l'État. Pourquoi ?
Oui, alors nous partons à Sedan, dans la deuxième ville des Ardennes, où les élus ont vraiment poussé un coup de gueule après la découverte du pillage et du saccage en règle d'une friche, après le départ des gens du voyage. Fin juillet, une dizaine de caravanes s'étaient installées illégalement sur le site. Donc c'est une friche industrielle où le transporteur Maury Global a mis la clé sous la porte en 2015. Les gens du voyage menacés d'expulsion sont partis, mais emportant avec eux de très grosses pièces, de la ferraille, des câbles, du cuivre, et ils ont réduit le site, et notamment les anciens bureaux, à l'état de ruine. Alors le maire de Sedan a littéralement laissé exploser sa colère, pliant à l'impunité, à l'inaction de l'État. Le maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole, qui a la compétence sur ce sujet, oui, n'a pas mâché ses mots. Il a dit qu'il ne mettrait pas un centime dans l'aire d'accueil des gens du voyage, tant qu'on n'aurait pas mis la main sur les vandales. Et donc, Boris Ravignon entend contacter les parlementaires pour renforcer l'arsenal judiciaire et faciliter les poursuites, car tous se sentent vraiment très impuissants.
Merci Carole Bouillet, rédactrice en chef déléguée aux informations locales du journal L'Union, l'Ardennais.
Le 6-7 sur France Inter.
Et à 6h48, Magic Elvis, Elvis Presley, 40 ans après sa disparition, Philippe Robin à Memphis. Et là, surprise, les gendres d'Elvis Presley, et notamment l'un d'entre eux, que l'on semble vouloir oublier là-bas.
Continuant mon périple dans les allées surpeuplées du domaine d'Elvis Presley à Memphis, je vois absolument partout des photos du roi lui-même, de Priscilla, son ex-femme, de Lisa Marie, sa fille, mais pas une seule de ceux qui ont été ses gendres. Et il faut rappeler quand même que l'un d'eux est une autre star mondiale, Michael Jackson en personne. Le roi de la pop qui épouse la fille du roi du rock, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Eh bien non, pas une trace, pas une photo de Michael Jackson. Comme si à Graceland, on préférait oublier qu'il a fait partie de la famille. C'est vrai que quand la belle Lisa Marie a épousé Michael le 26 mai 1994, c'en a surpris plus d'un, à commencer par celui qui fut l'ami d'Elvis et de Lisa Marie, Joe Esposito.
Well, I didn't believe it happened, to tell you the truth. I heard on the radio.
En vérité, quand je l'ai entendu à la radio, je n'y ai pas cru. Ça m'a fait bizarre, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mon sentiment personnel, c'est qu'elle a fait ça parce qu'ils étaient amis et qu'ils avaient des problèmes et que ça lui rendait service. Mais c'est très bizarre. Les gens m'en parlent souvent et je dis, demandez à Lisa, elle n'a même pas la réponse.
Hey, ask Lisa, she doesn't have the answer either.
Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been in the cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, oh yeah, ever since the world began.
Bien plus romantique, Patsy Anderson a eu l'occasion de rencontrer ce couple étonnant à Graceland et elle en garde un souvenir assez tendre.
Je pense que Lisa aimait vraiment Michael. Il est venu à Graceland et il était très agréable. Je les ai vus une fois devant la tombe d'Elvis, juste tous les deux. Il serrait Lisa dans ses bras. Ils sont restés au moins 45 minutes, comme ça, sans rien dire. Je ne crois pas qu'elle ait les mêmes sentiments pour lui aujourd'hui. En fait, je suis certaine qu'elle ne les a plus.
Le grand spécialiste français de l'histoire de et des Presley, Jean-Marie Pouzinck, pense lui qu'il s'agissait d'un échange de bons procédés.
Elvis connaissait bien d'ailleurs la famille Jackson et que quand il se produisait à Vegas, il se voyait fréquemment. Et donc la gamine avait des liens de qui se sont créés très tôt. Comme en plus ils se sont fait voler certainement tous les deux un peu leur enfance, leur jeunesse, moi je pense qu'elle a dû lui sauver la mise. Il avait des problèmes à cette époque-là et je pense qu'elle lui a sauvé la mise.
L'union de Lisa Marie Presley et de Michael Jackson dura 22 mois seulement. Elle déclara plus tard à la presse qu'elle le trouvait fascinant, mais qu'il n'avait pas réussi à satisfaire ses désirs conjugaux. On ne saura finalement jamais ce qu'Elvis aurait pensé de ce mariage, mais toujours est-il que c'était sans doute grâce à lui que les deux tourtereaux s'étaient connus à Las Vegas.
Oh, hold me close, hold me tight, make me thrill with delight, let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. And every time that you're near, all my cares disappear.
darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you more and more. I thought I could live without romance until you came. Until you came to me. But now I know that I will go. Oh, loving you eternally. Would you please be my own? Never leave me alone, 'cause I die every time.
Magic Elvis, Philippe Robin, et voici la dernière page du 6-7 de l'été, notre série « Ces lieux qui changent ». Direction le Sénégal, Dakar, où un lieu mythique se prépare à vivre une seconde vie. L'ancien tribunal, construit avant l'indépendance et abandonné dans les années 90, vient d'être attribué au ministère de la Culture, qui compte en faire un lieu d'exposition pour l'art contemporain. Reportage à Dakar de Guillaume Thibault de Radio France Internationale.
La première impression, c'est massif, c'est imposant, c'est somptueux. Voilà.
Majestueux mais encore vide, l'ancien palais de justice inauguré en 1958 est hanté, disent certains. Et le décor qu'il offre aux visiteurs illégaux peut faire peur. Archives éventrées, salles d'audience vides. Un bâtiment immense, abandonné en 1993, mais qui reste magnifique, estime Mamadou Gueye, responsable des bâtiments au sein du ministère de la Justice.
Ça ressemble à un palais, le palais d'un dieu. Ce n'est pas par hasard qu'on dit le temple de Thémis. C'est une grande salle. Au centre, il y a une cour. C'est la salle des pas perdus. Un tribunal, c'est également ça. C'est-à-dire qu'on rend la justice au nom du peuple. Donc le peuple y a sa place.
En 2016, les responsables de la Biennale d'art de Dakar ont demandé l'autorisation d'exposer des œuvres dans l'ancien tribunal. Et l'alchimie a fonctionné, estime le ministre de la Culture, Banik Ndiaye.
Magnifique bâtisse. Où en 1966, lors du premier Festival mondial des arts nègres, s'est tenue une des expositions. Et quand les organisateurs de cette dernière biennale ont réussi la prouesse de restaurer une partie de l'infrastructure, tous les visiteurs, y compris Jacques Lang, ancien ministre français, sont tombés sous le charme.
Dans les étages, la vue sur l'Atlantique est magnifique. L'ancien palais de justice, construit sur une pointe, permet en effet d'admirer l'ensemble de Dakar. À la fermeture du bâtiment, un homme y est resté, seul, durant 2 ans. Samba Lao Befal, responsable des archives, d'une part de l'histoire du Sénégal, s'inquiète pour les documents toujours sur place.
Vous imaginez, si je n'avais pas gardé tout ça, Eh bien, jusqu'à présent, il reste des documents au Cap Malin. Il y a des documents de 1923 qui sont restés au Cap Malin. Comme ces documents-là, tu as vu ça? Ça là, c'est ça la justice. C'est l'histoire du Sénégal. Voilà.
Une étude a été faite il y a 5 ans pour réhabiliter cet immense bâtiment. 5 à 8 millions d'euros seront nécessaires. Le chef de l'État, Macky Sall, a en tout cas tranché. Le ministère de la Culture a hérité en début d'année du bâtiment. À charge désormais pour le ministre, Banik Ndiaye, de lui donner une seconde vie.
Quand on est dans le pays de Léopold Sédar Senghor, quand on est dans le pays de Cheikh Anta Diop, quand on est dans le pays de Ousmane Sow, quand on est dans le pays de ces grands artistes, nous ne pouvons pas, à un moment donné, imaginer qu'on peut avoir peur pour utiliser, remplir en plein temps vraiment cette infrastructure.
Pour le responsable des bâtiments au ministère de la Justice, Mamadou Gueye, cette transition de la justice vers la culture est un pincement au cœur, mais en même temps l'occasion inespérée de sauver l'ancien palais de justice.
Quoi qu'on dise, c'est toujours le Sénégal. La culture également est assez importante. Le président Senghor disait que la culture est au début et à la fin de tout développement. Parce que qui dit patrimoine dit culture.
Rien n'est définitif, mais la direction de la Biennale des Arts qui prépare l'édition 2018 compte bien investir à nouveau l'ancien palais de justice pour présenter des œuvres. Le bâtiment attire en tout cas comme un aimant. En mars dernier, la chanteuse Imani est venue tourner le clip de sa chanson « L'Atelier ».
Oh, I'm sorry, lately I haven't been myself.
Un clip hypnotique, majestueux, à l'image de ce lieu, de cet ancien palais de justice, en train de devenir un palais de la culture.
Guillaume Thibault de RFI, reportage à Dakar. Stéphanie Fromentin, la météo. Le ciel est encore instable, mais plutôt calme.
Sur les régions les plus septentrionales de la Seine-Maritime, Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, le ciel sera bien bas et bien gris ce matin. Une grisaille matinale, parfois même accompagnée de faibles pluies ou de bruines. Sur le reste de la moitié nord, la journée sera plus agréable. De belles périodes ensoleillées succéderont à de rares passages nuageux, parfois accompagnés d'une petite ondée. Ces nuages plus nombreux sur le nord-ouest ce matin s'échapperont du centre-ouest aux frontières du nord cet après-midi. Sur la moitié sud, le soleil régnera en maître, à peine contrarié par quelques cumulus qui bourgeonneront sur les Pyrénées, voire quelques nuages côtiers sur les Landes et autour du golfe du Lion.
Le mercure, Stéphanie, est chaud au nord, voire très chaud au sud.
Et le thermomètre affiche 10 à 16 degrés ce matin des frontières du nord au massif central, 13 à 19 ailleurs, localement 20 à 22 sur le sud-ouest, autour de la Méditerranée et en Corse. Cet après-midi, le mercure atteindra les 23 degrés sur le littoral de la Manche, 25 à 31, 31 à 35 sur le reste de l'Hexagone.
Merci Stéphanie.